Vous écoutez RFI Radio France Internationale, il est 6h à Paris, minuit à Washington, 5h en temps universel.
Arnaud Pontus.
Et c'est RFI Matin, le journal de Marion Cazeneuve. Bonjour Marion.
Bonjour Arnaud, bonjour à tous.
À la une, la promesse d'un nouvel âge d'or de l'Amérique.
Promesse de Donald Trump devenu le 47e président des États-Unis. Et qui a aussitôt tourné la page Joe Biden avec une série d'annonces, de décrets concernant l'immigration, la politique étrangère ou encore le climat. Dans ce journal également, l'Argentine, où le président poursuit ses coupes budgétaires avec des centaines de licenciements annoncés dans les hôpitaux. Et puis les interrogatoires se poursuivent en France au procès de Nicolas Sarkozy sur le présumé financement libyen de sa campagne, alors qu'RFI a pu s'entretenir avec le fils de Muammar Kadhafi, qui dit avoir été approché plusieurs fois par les proches de l'ancien président pour revenir sur sa déposition dans cette affaire.
Ladies and gentlemen, the President of the United States, the Honorable Donald John Trump and Mrs. Trump.
Donald Trump applaudit à Washington sous la coupole du Capitole.
Le milliardaire est devenu hier le 47e président des États-Unis après en avoir été le 45e. Retour à la Maison-Blanche, donc 4 ans après la fin de son premier mandat. La main droite levée, la gauche posée sur la Bible, il a prêté serment avant de livrer un discours. L'âge d'or de l'Amérique commence aujourd'hui, a-t-il promis. Une cérémonie marquée par des images fortes, notamment venant de la première dame Melania Trump à Washington, Guillaume Nodin.
C'est un chapeau, mais c'est peut-être surtout un message. Le couvre-chef noir à bande blanche de Melania Trump empêche de voir ses yeux et de deviner l'humeur de la première dame que l'on imagine un peu maussade. Ce chapeau bien large a un autre avantage, il éloigne les importuns qui auraient l'idée de s'approcher pour l'embrasser, fussent-ils son mari et le nouveau président des États-Unis. Ce chapeau, elle ne le quitte pas de la journée. Quant avec Donald Trump, qui vient dans son discours d'accuser ses prédécesseurs de trahison, de corruption et d'incompétence, elle tourne les talons avant que la porte de l'hélicoptère qui emporte le couple Biden se referme. Elle le garde y compris quand la famille présidentielle passe par la Capitol One Arena, où le milliardaire et sympathisant d'extrême droite Elon Musk vient de remercier la foule d'un bras tendu qui peut être diversement interprété. Là, Donald Trump commence à signer des décrets en public, une première, des décrets qu'il continue à signer plus tard à son retour à la Maison-Blanche, notamment celui qui gracie les émeutiers du 6 janvier. À quelques kilomètres de là, leurs amis devant la prison de Washington manifestent leur joie. Ils portent des casquettes rouges, pas des chapeaux signés des meilleurs créateurs. Guillaume Nodin, Washington, RFI.
Une journée marquée surtout par une série de décrets, d'annonces et qui donnent le ton de la présidence Trump.
Difficile de tout égrener tant il y en a eu. Parmi ces décrets, le président gracie plus de 1500 personnes qui avaient été condamnées pour l'invasion du Capitole le 6 janvier 2021, lorsque Donald Trump contestait la victoire de Joe Biden à la présidentielle. Il a aussi signé un décret pour sortir de l'accord de Paris sur le climat, ainsi que de l'Organisation mondiale de la santé, confirme vouloir imposer des droits de douane de 25% aux produits canadiens et mexicains dès le 1er février. Petit répit aussi pour les utilisateurs de TikTok. Le président reporte de 75 jours l'application de la loi qui prévoit l'interdiction du réseau social. A noter aussi, le républicain a déclaré l'état d'urgence à la frontière avec le Mexique. L'une de ses promesses de campagne était de lutter contre l'immigration illégale. Des annonces, des décrets accueillis avec joie pour ces Trumpistes rencontrés par Édouard Maille à Atlanta, en Géorgie.
Une organisation républicaine a réservé une salle dans un restaurant. La cérémonie est retransmise. Une cinquantaine de personnes applaudissent les promesses du président, entourées d'amis, béquilles et aux anges.
Je n'ai jamais eu autant d'espoir. Je ressens tellement d'amour pour ce pays et encore plus pour le peuple de notre nation.
Pendant l'hymne national, Dale, 85 ans, fait le salut militaire. Le vétéran voit Donald Trump comme un véritable héros.
Avec les qualités qu'il semble avoir pour diriger, c'est un des rares chefs que j'ai vu dans ma vie. Il me rappelle une version civile de George Patton, le chef militaire qui a permis la victoire pendant la Seconde Guerre mondiale. Donald Trump semble nous sauver du bord du précipice où l'on se trouve.
Didi, 72 ans, profite du buffet et célèbre le retour de Donald Trump pour l'avenir du pays.
Que le pays retrouve sa grandeur. À mes yeux, c'est le meilleur pays du monde entier et on établit la norme pour les autres. Beaucoup veulent cette liberté et ces possibilités.
Elle espère que tous les Américains réaliseront que leur vie peut s'améliorer, peu importe leurs convictions politiques. Édouard Maille, Atlanta, RFI.
Et dans son discours d'investiture où Donald Trump a largement souligné son intention de faire passer l'Amérique en premier, America First, Donald Trump a promis notamment de reprendre le contrôle du canal de Panama. Le canal appartient et continuera d'appartenir au Panama, a réagi aussitôt le président panaméen. Cuba, de son côté, déplore un mépris de la vérité après que Trump a réinscrit le pays sur la liste noire des soutiens du terrorisme.
Et on revient ce matin largement sur cette cérémonie d'investiture et surtout sur ces annonces en cascade avec nos invités après les journaux de 6h et 7h, temps universel. En Argentine, la tronçonneuse de Javier Milei reprend du service.
Et cet outil est devenu le symbole de la présidence de Milei qui promet des coupes dans les budgets. Cette fois, ce sont des coupes concernant la santé publique. Le ministère de la Santé a annoncé 1400 licenciements. Le personnel de l'hôpital Laura Bonaparte à Buenos Aires s'est mobilisé hier pour dénoncer ces licenciements. Reportage de Théo Conscience.
Daniela, psychologue, Karen, assistante pharmacienne, Lia, médecin généraliste, et la liste continue. Sur la façade de l'hôpital Laura Bonaparte sont affichés les noms des quelques 200 employés licenciés cette semaine. Un tiers du personnel total de l'établissement. Actuellement, l'hôpital ne peut plus fonctionner, alerte Marcelo Olmedo, psychologue aux urgences.
On a de plus en plus de demandes et de plus en plus de patients qui ne font pas forcément partie des gens les plus défavorisés, mais qui ne peuvent plus payer leur mutuelle, car ils doivent prioriser le loyer ou la nourriture.
En 2024, près de 100 000 personnes ont reçu des soins à l'hôpital Bonaparte. Mais au-delà de cet établissement, les 1400 licenciements annoncés par le ministère de la Santé en début de semaine mettent en danger tout le système de santé public et gratuite, estime Franco, psychologue.
La priorité du gouvernement est de satisfaire des intérêts qui n'ont pas grand-chose à voir avec ceux des personnes les plus vulnérables de notre pays.
Début décembre, le porte-parole du gouvernement a annoncé un projet de loi destiné à supprimer la gratuité des soins pour les étrangers non résidents dans les hôpitaux publics argentins. Théo Conscience, Buenos Aires, RFI.
En Colombie, le président Gustavo Petro décrète l'état d'urgence à cause des affrontements meurtriers en cours entre guérillas. Ces violences ont fait plus de 100 morts, en majorité des civils, et 20 000 déplacés en moins d'une semaine dans plusieurs régions du pays, dans le nord, à la frontière vénézuélienne et dans le sud amazonien, des régions rurales où sont cultivées des dizaines de milliers d'hectares de coca. La guérilla de l'ELN combat des dissidents des FARC, ce qui a conduit il y a quelques jours Gustavo Petro à suspendre les négociations de paix avec l'ELN.
RFI, les 6h08 à Paris, en France, les interrogatoires de l'ancien président Nicolas Sarkozy.
Il est jugé en ce moment à Paris, soupçonné d'avoir financé sa campagne présidentielle de 2007 avec de l'argent du régime de Muammar Kadhafi. Hier, il était interrogé sur une visite à Tripoli le 6 octobre 2005 où se serait noué entre les deux hommes un pacte de corruption. Les juges lui ont demandé s'il avait tu un aparté avec le dirigeant libyen ou bien avec son numéro 2, Abdallah Senoussi. Ce dernier, visé par un mandat d'arrêt international lancé par la France, aurait pu donner de l'argent pour, en contrepartie, voir ses poursuites s'arrêter. Compte rendu de Laura Martel.
Nicolas Sarkozy aurait-il eu l'occasion de solliciter lui-même des fonds occultes? Impossible à l'en croire. De l'aéroport, le voilà directement sous la tente, confronté à la logorée d'un Kadhafi extrêmement bizarre. J'ai pensé qu'il était drogué, pointe l'ex-président. Ont-ils discuté d'un financement? Ça me salit de répondre à des questions pareilles, s'enflamme Nicolas Sarkozy. Je suis en Libye pour la première fois de ma vie, face à Kadhafi pour la première fois, en public. Nos interprètes ne nous lâchent pas d'une semelle et je vais lui demander de financer ma campagne, mais c'est à devenir fou tellement c'est grotesque. Quant à une éventuelle levée du mandat d'arrêt d'Abdallah Senoussi, Kadhafi l'a évoqué, mais ma position a toujours été claire, je n'en avais ni l'intention ni le pouvoir, soutient Nicolas Sarkozy, tout comme il martèle qu'à aucun moment, ni de près, ni de loin, ni officiellement, ni officieusement, il n'a été question qu'il rencontre Senoussi. Ils n'ont pas non plus échangé d'appel, comme l'a pourtant affirmé l'ex-numéro 2 libyen. Il ne parle pas français, je ne parle pas arabe et je vais demander à ce monsieur que je ne connais pas 50 millions pour ma campagne, ça n'a pas de sens, offusque Nicolas Sarkozy, qui prend quelques distances avec Claude Guéant. Lui a bien rencontré Senoussi 5 jours plus tôt. L'erreur initiale était de se mettre dans les mains de Ziad Takieddine, car à partir du moment où vous copinez avec ce manipulateur, les risques sont grands, déplore Nicolas Sarkozy, avant d'ajouter « mais quand monsieur Guéant affirme avoir été piégé, je le crois ».
Laura Martel. Au moment de ce procès à Paris, le fils de Muammar Kadhafi sort de son silence. Il a accordé un entretien exclusif à RFI, entretien par écrit, où il affirme que Nicolas Sarkozy a bien accepté de l'argent de son père, 5 millions de dollars en espèces. Saïf al-Islam Kadhafi dit aussi avoir été approché 3 fois pour modifier sa déposition auprès des juges français.
Et les détails complets de cet échange exclusif avec RFI sont à lire dès maintenant en ligne sur RFI.fr. On y revient aussi largement dans le dossier du journal de 8h. Heure de Paris. Au Forum économique de Davos, dans les Alpes suisses, il est beaucoup question, là aussi, de Donald Trump.
Ce dernier fera une intervention jeudi, après-demain, par visioconférence et devrait donner de nouvelles précisions sur ses intentions économiques. Ce sera devant une soixantaine de dirigeants de grandes ONG et des centaines de patrons. En tout cas, en attendant ces orientations américaines, ces Trumponomics, les patrons du monde sont plutôt optimistes pour l'année à venir. C'est ce que révèle le baromètre annuel publié hier par le cabinet d'audit PwC, Nicolas Feldman.
Sur les quelques 5000 patrons interrogés, près de 60% s'attendent à une croissance mondiale en hausse ces 12 prochains mois. Si certains sondés pointent l'inflation ou les décisions politiques changeantes comme source d'inquiétude, c'est bien l'optimisme qui domine. En 2025, près d'un chef d'entreprise sur deux prévoit d'augmenter ses effectifs. Et dans leurs objectifs de croissance, les patrons perçoivent l'intelligence artificielle comme une opportunité qui fait ses preuves. Les modèles d'IA génératifs permettent déjà, selon eux, de faire gagner du temps aux salariés et rendent donc leurs entreprises plus efficaces. Autre point notable, ce sont les investissements dans la transition énergétique qui sont jugés bénéfiques puisqu'ils engendrent, selon les sondés, plus de gains que de pertes. Mais attention, note l'étude, car les patrons en ont bien conscience. La croissance de leurs entreprises passe aussi par des changements significatifs. Près de la moitié d'entre eux réclament notamment plus de souplesse dans les règles qui encadrent leurs activités.
Nicolas Feldman. Et aujourd'hui, deux discours sont particulièrement attendus à Davos. Celui de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, ainsi que du vice-président chinois, Ding Xuexiang.
Le prince Harry poursuit son bras de fer contre les tabloïds britannique.
Il intente un nouveau procès contre le groupe du milliardaire Rupert Murdoch. Il accuse ce groupe d'avoir obtenu illégalement des informations à son sujet pour les publier ensuite dans les journaux. Correspondance à Londres, Emeline Vin.
Le prince Harry veut montrer que les journaux du groupe News Corp ont piraté son téléphone, engagé des détectives privés et utilisé d'autres méthodes illégales dans le but de publier des scoops sur sa vie privée. Parmi ces journaux, le tabloïd Le Sun ou l'hebdomadaire News of the World qui a cessé de publier en 2011 après la révélation d'un scandale d'écoute téléphonique. Plus de 1000 personnalités dont l'acteur Hugh Grant ou la top modèle Sienna Miller ont conclu des accords hors tribunaux avec News Corp. Le prince Harry se considère donc comme l'un des derniers à pouvoir faire condamner le groupe appartenant à l'homme d'affaires Rupert Murdoch. Du côté de News Corp, l'enjeu, c'est de convaincre que les informations ont été vendues par les proches du prince Harry, que les faits, qui remontent à la période 1996-2011, sont prescrits, et surtout que le groupe n'avait pas pour politique de cautionner ou de maquiller les méthodes utilisées par certains journalistes. En 2012, pourtant, une enquête publique avait mis en lumière le manque d'éthique d'une partie de la presse britannique. Le procès doit durer 8 semaines. Le prince Harry devrait venir témoigner en personne à la Haute Cour de Londres vers la mi-février. Emeline Vin, Londres, RFI.
RFI, 6h13 à Paris, minuit 13 à Washington.
Merci à vous, c'était le journal de Marion Cazanov. RFI matin jusqu'à 9h avec Andréane Mellard qui vous accompagne dans une heure. Une matinée encore très américaine au lendemain de la prestation de serment de Donald Trump. Il est désormais officiellement le 47e président des États-Unis. Il promet l'âge d'or et, comme attendu, a commencé à signer une série de décrets. État d'urgence nationale à la frontière avec le Mexique pour stopper l'invasion des clandestins. On y revient dans un instant. Il y a aussi l'abrogation de décrets protégeant les droits des minorités sexuelles et raciales, le retrait de l'accord de Paris sur le climat, le retrait de l'Organisation mondiale de la santé. Les détails et les analyses, ce sera tout au long de RFI Matin. Nos invités dans une heure, Maxime Cherveau, qui est spécialiste de la politique américaine et professeur à l'Institut de géopolitique de Paris 8. Et dans 2 heures, le spécialiste des États-Unis Corentin Célin et la journaliste américaine Anne Bagaméry. On vous parle aussi des États-Unis dans nos rendez-vous échos du jour avec Stéphane Genest qui nous dira pourquoi L'immigration va déterminer le sort de l'économie américaine et dans Afrique Économie, quel avenir pour l'industrie automobile sud-africaine sous la présidence Trump. À suivre aussi les accusations et les déclarations de Saïf al-Islam Kadhafi, le fils de l'ancien dirigeant libyen, s'est entretenu avec RFI. On en a dit quelques mots dans le journal de 6 heures alors que se poursuit à Paris le procès de Nicolas Sarkozy. Dans cet entretien, Saïf al-Islam Kadhafi affirme que l'ancien président français a accepté de l'argent de son père. On y reviendra en détail et vous retrouvez tous les détails d'ailleurs en ligne sur RFI.fr.
RFI Matin.
C'est donc l'une des toutes premières mesures annoncées par Donald Trump. À peine élu, le nouveau président américain a lancé son offensive anti-immigration et il a signé le décret déclarant l'état d'urgence à la frontière avec le Mexique. C'était juste après son discours d'investiture.
Aujourd'hui, je vais signer une série de décrets exécutifs historiques qui permettront de reconstruire les États-Unis et de revenir au bon sens. D'abord, je déclarerai l'état d'urgence à notre frontière sud. Toute personne entrée illégalement sera immédiatement retenu et nous commencerons le processus de renvoi de millions et de millions de criminels étrangers chez eux. En tant que commandant en chef, je n'ai pas d'autre responsabilité que de défendre notre pays des menaces, des invasions et c'est exactement ce que je vais faire.
Et ces arrestations et expulsions pourraient commencer dès aujourd'hui. On en parle avec l'un de nos envoyés spéciaux aux États-Unis, Arim Lipold. Bonjour Arim.
Bonjour Arnaud, bonjour à tous.
Vous êtes à Los Angeles, en Californie. Vous avez passé la journée avec des migrants. Ce sont des bénévoles qui nettoient le quartier d'Altadena, ravagé par les flammes il y a maintenant 2 semaines. Quelle est l'atmosphère sur place? Est-ce que les gens que vous avez rencontrés ont peur d'être arrêtés?
Eh bien, l'ambiance, Arnaud, est plutôt étonnamment positive, en fait. J'ai parlé avec une Mexicaine, par exemple, une Mexicaine sans papier, qui vit à Los Angeles depuis 20 ans. Elle n'a pas peur de ce qui pourrait lui arriver. Elle se sent protégée par l'ONG qui a organisé cette initiative de nettoyage qui dure depuis une semaine. En revanche, José, un migrant venu du Guatemala il y a 18 ans, et également habitant de Los Angeles et en situation irrégulière, eh bien, lui, il est plus inquiet, mais il est heureux de pouvoir s'investir dans cette cause. On l'écoute.
J'ai perdu mon emploi parce que je travaillais pour une famille de Pacific Palisades qui a perdu sa maison. Je m'occupais de leur jardin. Alors, comme je n'ai plus rien à faire, je viens ici depuis plusieurs jours pour aider à nettoyer. J'essaie de redonner un peu à ce pays qui m'a tant donné.
Voilà, ce pays qui m'a tant donné, dit Rossé. Et pourtant, c'est ce même pays qui veut maintenant expulser ces personnes qui déblaient les quartiers dévastés.
Exactement, et c'est cette contradiction en fait que l'organisation qui a organisé ce nettoyage, l'organisation de défense des droits des travailleurs immigrés, Endilon, veut mettre en lumière avec cette initiative. Le message, Arnaud, est clair. Voyez, nous faisons le travail que personne d'autre ne fait. Écoutons Nadia Marine Molina de cette organisation.
C'est un message que nous envoyons le jour même de l'investiture à Washington. Alors que les immigrants sont stigmatisés par le nouveau gouvernement, ici, des travailleurs immigrés se mobilisent pour aider leur quartier.
Et ils se mobilisent alors qu'ils risquent donc l'expulsion, ce qui, Arim, on peut le dire, est presque surréaliste.
Oui, absolument, c'est vraiment paradoxal, mais vous savez, dans ce contexte, en fait, se regrouper et faire quelque chose d'utile ensemble, ça leur fait du bien. Chaque matin, en fait, des centaines de bénévoles partent avec des pelles pour déblayer des gravats à Altadena. Beaucoup sont dans des situations extrêmement précaires. Arnaud, ils n'ont pas accès à l'aide fédérale, bah forcément, ils sont en situation irrégulière. Certains évitent même les centres d'aide publique par peur des contrôles de la police fédérale de l'immigration, qui s'appelle la Migra en espagnol. C'est une communauté donc doublement touchée par les incendies, par leur statut. Certains ont tout perdu, leur maison, leur travail, et maintenant ils risquent en plus l'expulsion. Pourtant, Arnaud, j'ai l'impression qu'ils ne veulent pas encore y croire, en tout cas, ils ne se sont pas encore préparés à cette éventualité.
Oui, merci Arim Lipold, en direct de Los Angeles, l'un de nos envoyés spéciaux aux États-Unis. Ces premiers pas de Donald Trump à la Maison Blanche sont scrutés bien évidemment dans le monde entier et on va voir ce qu'on en dit en Inde avec notre correspondant sur place, Com Bastin. Bonjour Com.
Bonjour Arnaud.
L'Inde, c'est un partenaire économique et militaire incontournable pour les États-Unis. Le président américain jouit d'ailleurs d'une bonne image auprès des partisans du Premier ministre Narendra Modi. D'autres sont nettement plus inquiets. Comment on peut dire que face à ce retour de Trump, l'enthousiasme se fait, disons, prudent?
Oui, et y compris parmi les partisans du Premier ministre Narendra Modi, en fait. Parce que sur le papier, ils ont tout pour s'entendre. Durant son premier mandat, Donald Trump a invité Narendra Modi en grande pompe au Texas. Il s'est vu retourner l'appareil en Inde. Les deux dirigeants se posent en hommes providentiels, les artisans de la renaissance de la majorité hindoue ou chrétienne de leur pays. Et puis la diplomatie indienne, qui est écartelée entre le bloc occidental et la Russie, elle est séduite par la volonté affichée par Donald Trump de mettre rapidement fin à la guerre en Ukraine, qui est vue ici comme lointaine. Mais depuis un mois, les débats violents au sein du Parti républicain autour de l'immigration ont gâché la fête. Tout a commencé avec la nomination par Trump de Sriram Krishnan, un investisseur américain d'origine indienne, comme conseiller à l'intelligence artificielle. Alors quoi de plus normal, vu son succès, qui reflète celui de nombreux immigrés indiens au sommet du monde de la tech aux États-Unis, sauf que les MAGA, la frange la plus raciste des partisans de Donald Trump, ne s'en sont pas accommodés. Les Indiens, ils sont partout, et ça commence à bien faire, ont affirmé en substance plusieurs figures républicaines qui exigent la fin totale des visas H1B.
Oui, ce malaise, il s'est installé plus amplement encore parmi les Indiens donc et les Américains d'origine indienne.
Oui, Elon Musk, lui-même venu d'Afrique du Sud, a eu beau défendre ses visas pour étrangers spécialisés, et Trump lui donnait raison, la violence des attaques contre la communauté indienne lors de ce débat a choqué et choque encore, parce qu'après l'Amérique latine, c'est aujourd'hui d'Inde que viennent le nombre le plus important de migrants aux États-Unis. Alors le mur à la frontière du Mexique n'a jamais vraiment choqué les Indiens, dont certains se considèrent, on peut dire, un peu comme des immigrés d'élite. Il y a le nationalisme de leur premier ministre, il y a sa proximité affichée avec Trump, l'accession d'Américains d'origine indienne à la tête de Google ou Microsoft. Tout ça, ce sont autant de raisons de penser que outre-Atlantique, on ne peut pas se passer d'eux. Alors plus dure est donc la chute lorsqu'ils constatent que la xénophobie des MAGA ne les épargne pas. Le sort de l'entrepreneur Vivek Ramaswamy l'illustre à merveille. Ce républicain, fervent soutien de la déportation massive d'immigrés, en croisade contre le racisme anti-blanc, s'est finalement vu insulté violemment en raison de ses origines indiennes. Lui, qui était un temps pressenti pour être vice-président, a finalement été annoncé au sein du département de l'efficacité gouvernementale du nouveau président. Et on a appris ce lundi qu'il ne fera finalement pas partie du gouvernement du tout. Alors les Indiens trouveront-ils grâce au sein de la cour réactionnaire qui se forme autour de Donald Trump? C'est la question qui taraude ici.
Merci beaucoup à vous, Com Bastin, notre correspondant en Inde en direct avec nous ce matin. Il est 6h passé de 23 minutes à Paris, 5h23 en temps universel. Dans quelques heures, à Fort-de-France, en Martinique, va s'ouvrir le procès de Rodrigue Petitot et de trois membres de son mouvement. Rodrigue Petitot, c'est le leader du RPAC. Il est en détention provisoire pour des propos jugés menaçants vis-à-vis de plusieurs élus locaux. C'est lui qui avait pris la tête du mouvement contre la vie chère dans ce département français d'Amérique. Avec le RPAC, lancé il y a 4 mois pour protester contre la flambée des prix de consommation courante, il a fait monter ses questions autour de la vie chère dans le département. Reportage de Peggy Saint-Ville.
Myriam est l'une des anonymes qui suit avec attention tout ce qui se rattache à la question de la vie chère. Elle fait un constat sans équivoque.
Pour moi, le mouvement est en train de s'essouffler. Il est toujours aussi difficile d'acheter des produits alimentaires à des prix raisonnables, des fruits et légumes à des prix raisonnables, de la viande, du poisson, etc. Ce mouvement, il doit continuer, il doit trouver un nouveau souffle. Il a été initié par les membres du RPAC, mais c'est à la population aussi de se saisir de cette problématique, à nos élus d'avoir le courage de continuer le combat mené.
Elle croit malgré tout à un renouveau.
Et finalement, certains arguments mis en avant par les membres de l'association, on s'en rend compte qu'un article d'investigation comme celui de Libération montre à la population qu'il y a un fond de vérité. Et je pense que ce sont des gens qui dérangent.
Olivier Lucenay, un ancien prêtre devenu influent sur les réseaux sociaux, a plusieurs fois manifesté aux côtés de Rodrigue Petitot.
J'ai plus qu'une sympathie, je suis à fond mobilisé avec eux. Déjà, bien lors des grands rendez-vous, les rendez-vous clés que je tâche de ne pas rater, d'honorer. Et puis dans mon quotidien, ben, sur mes réseaux, sur mes différentes plateformes où je partage du contenu pour tenter à ma façon d'éveiller les consciences aussi dans la ligne de ce qui a été entamé par le AirPrac. Et puis personnellement, je m'engage aussi dans une consommation plus raisonnée, mais pas consommation consumériste.
Il regrette la répression qui sévit selon lui.
Si à chaque fois qu'un peuple se lève pour crier à l'injustice, il y a en face des répressions administratives, etc., ça pose fondamentalement la question de la justice, de la liberté d'expression, de la liberté de se mobiliser, et puis surtout, au fond, d'un peuple à réclamer, vivre décemment et à plus forte raison sur sa terre.
Mario Briand, l'un des co-accusés de Rodrigue Petitot, reste quant à lui confiant.
Les sympathisants et les militants qui sont à nos côtés, ils attendent depuis 2009. J'ai envie de dire qu'ils attendent même avant 2009. Donc maintenant, on a différents médias qui dénoncent aussi des choses. Les langues commencent à se délier. Il y a différentes personnes qui démontrent et qui disent qu'on avait raison. Il y a des marges qui sont faites, il y a des profits qui sont faits avec exagération. Il y a des montages financiers qui sont faits. Non, il est temps que ça change.
Myriam Olivier prévoit d'être à ses côtés parmi la foule qui attendra le verdict de mercredi, très attentif à la réponse judiciaire qui sera apportée par la justice. Pays Saint-Ville, Fort-de-France, RFI.
Il est 1h26 à Fort-de-France, en Martinique. Et c'est l'heure de la musique sur RFI, notre coup d'œil à la playlist du mois. Voici aujourd'hui, voilà, et pas de cala, avec Jolie Sarah. Toute la playlist RFI est à découvrir sur RFI Musique et sur les plateformes.
Elle regarde le cuisinier, le vendeur de poissons. Elle regarde le commissaire, le flic en faction. Elle regarde le militaire, l'administration. Elle traverse le marché à tout petit pas et balance doucement son petit capot. Elle balance ses grands yeux par-ci et par-là.
Jolie Sarah, c'était Pat Cala avec voilà Jolie Sarah en playlist ce mois-ci, RFI, extrait de l'album C'est tout qui est sorti en septembre dernier. Merci de votre fidélité à la Radio du Monde. Dans une minute, l'actualité africaine.
Priorité santé.
Caroline Paré vous invite à poser vos questions sur les thèmes de cette semaine. Aujourd'hui,
Retrouver un sommeil de qualité sans médicaments.
Demain.
Guerre contre la drogue, qu'en pensent les médecins spécialistes des addictions?
Contactez-nous sur WhatsApp au 33 7 61 18 46 41 ou à priorité.santé@rfi.fr.
Priorité Santé avec Suno Assurance.
Du lundi au vendredi à partir de 9h10 TU sur RFI.
Organisé par le Centre National du Livre, les Nuits de la Lecture reviennent du 23 au 26 janvier avec une programmation littéraire sur le thème des patrimoines. Bibliothèques, librairies, écoles, universités, musées, théâtres proposent des milliers d'événements partout en France et partout dans le monde pour transmettre le plaisir de lire. Plus d'informations sur nuitsdelalecture.fr en partenariat avec France Média Monde.